Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous retrouver pour Culture Média, au menu Média et Culture au sens large. Tous les médias et toutes les formes de culture. Tiens, aujourd'hui, on va parler documentaire et pâtisserie, mais en deux fois. Ce ne sera pas des documentaires sur la pâtisserie. Il y aura le journal des médias de Martin Cangelosi, le journal de la culture d'Hélène Manarino et le retour de son portrait inattendu, évidemment. Il y aura notre infomédia aussi. Nous serons avec le reporter Arnaud Miguet, correspondant de France Télévisions en Chine. Vous l'avez vu pendant des jours et des jours avec un masque, avec son caméraman. Ils ont été les deux seuls journalistes non chinois présents à Wuhan au plus fort de la crise. Et plus de 4 mois de confinement, 133 jours, il a enfin pu quitter la ville. Témoignage en direct. Nos invités ensuite, Ensemble à l'Olympia. C'est une émission ce soir sur C8. 25 artistes dans la salle mythique, confinée évidemment. Nous serons avec le patron de l'Olympia, Christophe Sabot, mais également Catherine Ringer d'Erita Mitsuko et Thomas Dutronc qui seront sur scène. Enfin, le violoncelliste star Gauthier Capuçon qui viendra nous parler d'un été en France, une tournée d'un genre totalement nouveau qu'il a inventé. Cet été, il va sillonner la France tout seul, enfin pas tout seul, avec violoncelle, femme et ses deux filles. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Bonjour Martin Cangelosi.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place au journal des médias, qu'avez-vous au sommaire ce matin Martin?
Des fans de jeux vidéo privés d'Ariana Grande, Claude de Koh-Lanta qui se téléporte et des bougies pour l'équipe.fr.
Mais d'abord évidemment les audiences, qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télé?
Eh bien les Français ont regardé de la fiction, gros carton pour la fiction sur les trois premières chaînes. Sur TF1, Camping, 4,6 millions de téléspectateurs, 20% d'audience pour la série française. Deuxième position, c'est M6 avec le film Forrest Gump, 2,6 millions de téléspectateurs. Suit ensuite France 2, 12,6% d'audience pour la série Major Crimes, 3 millions de téléspectateurs. Vous l'aurez donc compris, France 2 est qui est devant M6 en termes de téléspectateurs, mais M6 qui est devant en termes de part d'audience.
Culture Média.
On commence ce journal des médias avec Twitch et cette peur qui a envahi les utilisateurs du monde entier.
À Twitch, Philippe, rappelons d'abord ce que c'est. C'est un réseau social géant géré par Amazon. Twitch rassemble des fans de jeux vidéo, des gamers, des 5 continents. En gros, vous regardez des gens du bout du monde jouer en direct avant qu'ils ne vous regardent à leur tour. Et chacun se lance des défis, ainsi de suite. Et Twitch génère près d'1,7 milliard de dollars de revenus. Oh, c'est colossal. C'est plus que Yahoo, je vous vois. Être extrêmement surpris.
1,7 milliard.
C'est même la moitié de ce que rapportent les contenus de jeux vidéo dans le monde. Et ça ne s'arrête pas là. Depuis le début de ce journal, Philippe, depuis quelques secondes, sachez qu'il y a déjà eu 1 million de gamers qui se sont connectés en même temps. Cette communauté, elle seule, en ce moment, elle est en train de commenter les parties des uns et des autres avec des émoticônes et des abréviations pour s'encourager ou bien pour se dénigrer. Et ça peut durer des heures comme ça. Alors, pour égayer le tout, les gamers mettent un peu de musique en fond sonore ou jouent des clips quand ils font des pauses. Et c'est là que ça coince. Philippe, est-ce que vous connaissez ceci ?
Je reconnais, et surtout vous l'avez dit en teaser, c'est Ariana Grande.
C'est Ariana Grande. Alors, est-ce que vous connaissez le titre de la chanson ? 7 Rings. Alors à tous les fans d'Ariana Grande qui nous écoutent ce matin, et on sait qu'ils sont nombreux, si vous voulez utiliser cette bande-son sur Twitch, il faut payer beaucoup, beaucoup d'argent aux maisons de disques. Jusque-là, Twitch fermait les yeux, et tout le monde savait que Twitch fermait les yeux. Sauf que voilà, eh bien désormais, les maisons de disques américaines se sont réveillées d'un coup en ressortant du placard une loi sur le copyright vieille de 1998. Résultat, depuis quelques heures, des milliers d'utilisateurs reçoivent un mail. Il faut retirer illico presto les vidéos incriminées. Sinon, leur chaîne sera carrément désactivée. Wow. Même pour quelques secondes frauduleuses postées il y a plusieurs années. Cela risque-t-il, Philippe, de faire perdre à Twitch tout son sel ? Hier après-midi, c'est le sujet le plus discuté sur Twitter en France, avec des internautes qui ne comprennent vraiment pas pourquoi la plateforme a décidé aussi brutalement de faire du ménage et de devenir aussi stricte que YouTube en la matière. D'autres se demandent même si la SACEM, qui gère les droits des artistes en France, ne va pas s'en mêler aussi. La SACEM, qui a eu le droit à son hashtag sur Twitter, n'a pour l'instant pas réagi.
On continue dans la musique avec Virgin Radio, dans le même groupe qu'Europe 1, qui a trouvé un nouvel animateur pour sa matinale tout en musique.
Et c'est le quotidien, c'est le comédien Manu Payet qui va devoir se lever tôt et remplacer Camille Combal en septembre. Camille Combal occupe le poste depuis 6 ans, mais il est désormais très pris sur TF1 et dit vouloir faire des grasses matinées. Alors pourquoi ce choix ? Les explications de Frédéric Pau, patron de Virgin.
Pour l'avoir connu il y a 20 ans à La Réunion, mon choix avait été fait déjà à l'époque dans mon ancienne vie radiophonique de l'amener lors d'une matinale là où je me trouvais avant. Et on sait l'importance qu'a la radio pour Manu. On s'était toujours promis qu'on allait revivre une aventure ensemble. Et c'était le bon moment, justement, aujourd'hui, pour pouvoir revivre cette aventure 20 ans après, sachant l'importance qu'a la radio à ses yeux.
Un changement d'animateur, mais pas un changement de nom. L'émission s'appellera toujours Virgin Tonic en septembre et sera diffusée de 7h à 10h. Quant à l'équipe de chroniqueurs, on nous chuchote que tout le monde devrait rester en place.
On continue avec Claude Koh-Lanta qui n'en finit plus de faire parler de lui.
Alors Claude Koh-Lanta, c'est le gagnant qui n'a pas gagné hier et c'est très sérieux. Les Français se sont demandé si leur légende n'avait tout simplement pas un don d'ubiquité. Vous savez, cette capacité à être dans deux endroits différents en même temps, c'est impossible, me direz-vous. Pas si sûr. Hashtag, mais Claude peut le faire. L'enquête a duré des heures sur Twitter. Tout commence à 20h16, très exactement, sur C8, dans l'émission de Cyril Hanouna, c'est que du kiff.
J'ai juste un rêve, c'est de rencontrer un jour Claude. De Koh-Lanta. Est-ce que ce rêve va devenir réalité un jour ?
Croyons vos rêves,
c'est possible. Je me le demande. Il y a à prendre ou à laisser qui arrive dans un instant.
Impossible.
Voilà.
Je ne sais pas.
Bizarrement.
Quoi ?
Sauf qu'au même moment, Quotidien annonce la présence du héros dans l'émission. Boum ! Il arrive à 20h55 sur le plateau d'Yann Barthès. Nous sommes sur TMC.
Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes tombé à l'eau ?
J'ai ressenti la déception, forcément. Je devais la gagner, donc déçu par moi-même. Mais après, voilà.
Claude sur TMC, mais que se passe-t-il tout juste 9 minutes et 34 secondes plus tard, juste en face sur C8, chez Hanouna toujours, qui vient de prendre les commandes d'apprendre ou à laisser.
Bonjour à tous. Très heureux de te voir.
Bah écoute, je suis content d'être là aussi, je suis content de venir accompagner Laetitia et j'espère que je vais te porter chance.
J'espère aussi.
Claude, franchement Laetitia, est-ce que t'as suivi Koh-Lanta ? Un peu quand même, mais...
J'en ai entendu beaucoup parler.
Parce que Claude, je voudrais dire, Claude, tu sais, je suis un compétiteur, j'adore le sport. Et franchement, t'es un modèle pour moi.
C'est gentil.
Alors je vois venir Philippe, mais comment
fait-il ? Mais comment il a fait ? C'est magique.
Alors désolé de vous décevoir Philippe, ce n'est pas totalement magique. Claude n'est pas un super héros. Explication, l'émission Quotidien n'est pas vraiment en direct et est enregistrée chaque soir avec une dizaine de minutes d'avance. Si bien que quand Claude est à 20h55 sur TMC dans votre télé, il est aux alentours de 20h45 dans la vraie vie au moment du tournage. De quoi lui laisser le temps de quitter TMC, de sauter dans un mototaxi et d'être déjà maquillé sur C8. Une vingtaine de minutes plus tard, les deux plateaux ne sont qu'à 2 petits kilomètres l'un de l'autre. Désolé de vous décevoir.
On continue avec du sport, avec Canal, Being Sport et SFR qui font condamner des pirates du web.
Pendant au moins 3 ans, de 2014 à 2017, 5 hommes s'amusent à créer à la chaîne des dizaines de sites internet pirates. Sur ces sites, le meilleur du sport, tout y passe, foot, rugby, basket. Parfois, Canal+ est même proposé gratuitement 24 heures sur 24 et ça marche. Certains sites réunissent ensemble plus de 7 millions de visiteurs uniques, c'est énorme. L'un des prévenus, Olivier, a été condamné pour contrefaçon et blanchiment d'argent. Et ça lui a coûté cher, 12 mois de prison, dont 6 mois ferme. C'est dire si le tribunal de Rennes a pris l'affaire très au sérieux.
Et les ennuis ne sont pas totalement finis.
Loin de là, Canal réclame toujours 30 millions d'euros de dommages et intérêts à l'ensemble des prévenus. SFR et Bein Sport sont également partie civile. Ces 5 pirates vont-ils vraiment devoir payer autant d'argent ? Réponse le 15 octobre.
Et puis on continue ce journal avec un anniversaire, et pas des moindres, les 20 ans du site L'Équipe. Bon anniversaire à l'équipe.fr.
Le site internet du quotidien sportif est né le 9 juin 2000, c'était donc jour pour jour il y a 2 décennies. À cette époque, Jacques Chirac est président de la République, à la télé il n'y a que 6 chaînes, Facebook ou Spotify, inconnu au bataillon, pas encore créé, et Orange s'appelle encore Wanadoo. Autant dire que c'était un autre monde.
Je suis toujours chez Wanadoo.
Et pour en parler, nous sommes au téléphone avec Emmanuel Alix, directeur du pôle numérique de l'équipe. Bonjour Emmanuel, je ne sais pas si vous êtes encore sur Wanadoo, mais merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Bon anniversaire déjà. Il y a 20 ans, TikTok n'existait pas non plus. Et voilà que vous débarquez aujourd'hui sur l'appli préférée des ados. Normal après tout, l'équipe.fr, j'ai envie de vous dire, est un tout jeune adulte.
Oui, c'est un tout jeune adulte et ça fait 20 ans qu'on,
qu'on essaie d'innover, de proposer nos contenus là où sont les lecteurs. Et il nous a paru légitime et normal aussi pour fêter ces 20 ans d'aller sur cette nouvelle plateforme chère à nos adolescents, à nos collégiens.
Qu'est-ce que vous allez faire
proposer.
Bonjour Emmanuel Alix, qu'est-ce que vous allez faire sur TikTok?
Sur TikTok, on va essayer de faire ce qu'on fait un peu partout, c'est-à-dire raconter des histoires de sport avec un angle un petit peu décalé, avec un ton un petit peu décalé. Donc sur TikTok, c'est des vidéos d'une minute maximum. Et donc, on va essayer de proposer des choses chaque jour, une histoire de sport, soit donc un de nos journalistes face caméra, soit avec les droits que peut avoir la chaîne L'Équipe, proposer également des contenus. Voilà, on va pas faire du karaoké, on va pas faire que de la musique comme ce qu'on trouve beaucoup de choses sur TikTok, mais on va faire toujours du sport avec un angle un petit peu particulier propre à cette plateforme.
Pas de karaoké, mais du sport. Merci Emmanuel Alix, directeur du pôle numérique de L'Équipe, d'avoir été avec nous sur Europe 1 pour cet anniversaire, donc les 20 ans de l'équipe.fr.
Merci Emmanuel Alix et merci Martin Cangelosi. À demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
À suivre l'infomédia du jour avec Arnaud Miguet, notre prochain invité. Il a été le correspondant de France Télévisions en Chine. Il est de retour après un long séjour à Wuhan et vient nous raconter comment cela s'est passé. On en parle avec lui dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est leur Philippe de l'info média du jour.
Il a passé plus de 133 jours confiné à Wuhan, la ville chinoise où a débuté la pandémie de Covid-19, avec Gaël Caron, son caméraman. Ils ont vécu une aventure unique. Ils ont été les deux seuls journalistes non chinois présents sur place au plus fort de la crise. Après plus de 4 mois de confinement, Arnaud Miguet, correspondant de France Télé en Chine, a enfin pu quitter Wuhan. Comment a-t-il vécu cette période, professionnellement et personnellement? Nous sommes en direct de Shanghai où il est 15h23. Bonjour Arnaud Miguet.
Bonjour Philippe.
Plaisir de vous entendre. Vous êtes en direct avec nous ce matin sur Europe 1, en direct de Shanghai et non pas de Pékin où vous êtes installé normalement, habituellement. Pour quelle raison? Vous êtes en quatorzaine. Pourquoi Shanghai?
Alors pourquoi Shanghai? Parce que lorsque je suis parti de Wuhan, c'était jeudi dernier, je ne pouvais pas directement aller à Pékin parce qu'il n'y avait pas d'avion, parce qu'il fallait prendre un train avec une espèce de loterie. Il y a seulement 1000 personnes qui peuvent quitter la ville de Wuhan. Ça veut dire que les gens de Wuhan sont un peu toujours considérés comme des pestiférés, des parias, et on ne les veut surtout pas dans la capitale. Or, à Shanghai, il n'y a pas de problème, mais à Pékin, il y a un problème de quarantaine. Et je n'avais pas envie, après ces 133 jours, de passer à nouveau 2 voire 3 semaines en quarantaine dans un hôtel choisi par les autorités, fermé à double tour de l'extérieur, avec la porte qui ne s'ouvre que 2 fois par jour pour vous apporter des plats préparés. Donc, nous avons choisi la liberté d'être à Shanghai, mais il se trouve que ce week-end, la quarantaine à Pékin a été levée. Donc, finalement, nous allons pouvoir rejoindre la capitale et je vais enfin pouvoir rentrer chez moi.
Ça sera quand?
Dans la semaine, probablement mercredi ou jeudi.
Il n'y a pas de traitement de faveur, vous avez répondu à une partie de ma question. Il n'y a donc pas de traitement de faveur pour les journalistes en Chine, contrairement à ce qui peut se passer en France, où on pouvait peu ou prou circuler avec la carte de presse. En Chine, rien de tout ça.
Non, absolument pas, non. J'ai cette triple difficulté. D'abord, je viens de Wuhan, c'est quand même l'antre du diable et toujours considéré comme tel, même en Chine. Je suis français et tout le monde me demande « mais vous êtes français, mais vous venez de France ». Non, j'ai passé quand même pas mal de temps en Chine et j'étais là pendant toute la période et notamment à Wuhan. Mais parce que vous êtes français, on s'imagine que le mal aujourd'hui est en France et donc vous êtes porteur du mal et vous êtes un virus putatif ambulant. Et puis ensuite, journaliste, en effet, ça n'est pas toujours très très bien vu et en Chine, c'est absolument le cas. Il n'y a absolument aucun traitement de faveur, loin s'en faut. Donc il y avait cette triple difficulté pour aller à Pékin, et c'est pour ça que nous sommes à Shanghai, qui est une ville quand même beaucoup plus ouverte et beaucoup plus libre.
Donc, 133 jours passés à Wuhan, est-ce que vous avez été confiné volontaire? Je veux dire par là, est-ce que vous auriez pu partir quand il était encore temps, mais vous auriez décidé de rester, ou bien il était déjà trop tard de toute façon?
Non, la question s'est posée. La question s'est posée au moins à 4 reprises. Nous sommes arrivés le 22 janvier à Wuhan pour faire des reportages et pour faire un 20h, le 20h étant à 3h du matin, heure chinoise, et nous étions en train de travailler quand tout d'un coup j'ai vu les alertes sur mon téléphone disant que la ville allait être confinée, la ville allait être coupée du monde à partir du 23 janvier à 10h du matin, ce qui était quelque chose sans précédent. Et donc là, la question s'est posée avec Gaël, même si nous étions un petit peu fatigués. fatigué quand même après une journée intense qui était nos premiers reportages à Wuhan. Et on s'est dit, restons, on verra bien ce qui se passe. On vit ensemble, on meurt ensemble, on fait ce boulot pour le meilleur et pour le pire. On sortait d'une séquence en Indonésie où on avait tourné des sujets sur des maisons en bambou. Là, ça allait être probablement un peu plus difficile parce qu'il y avait quand même une peur qui commençait à monter sur la ville et quand même pas mal de stress avec une maladie dont on ne connaissait même pas le nom. Mmh. Et d'ailleurs, on ne savait même pas finalement comment se protéger vraiment de cette maladie. Et on est parti de Pékin le 22 avec une dizaine de masques, 3 chemises dans les valises. Et on s'est dit, comme pour toute mission, on va y rester quelques jours et puis on reviendra au bercail ensuite. Donc la ville se ferme le 23 à 10h du matin. Est-ce qu'on prend des billets d'avion? Les billets d'avion étaient réservés. Et puis finalement, on a décidé de rester, de voir ce qui allait se passer. Et puis ensuite, il y a eu quand même 3 avions pour rapatrier les ressortissants français de la ville de Wuhan qui se sont retrouvés en quarantaine en France. Et là, la question s'est aussi posée au moins à 3 fois. Est-ce qu'on monte dans l'avion? Est-ce qu'on ne monte pas dans l'avion? Les autorités françaises nous laissaient la porte ouverte. Les autorités chinoises nous appelaient régulièrement pour nous dire « Vous allez bien partir en France ?» Non, nous allons rester avec vous. Nous allons rester à Wuhan pour voir comment les choses allaient se dérouler parce qu'il fallait le vivre probablement pour le raconter. C'est ce que nous pensions avec Gaël. Et après tout, nous sommes correspondants en Chine. Et encore une fois, on fait ce boulot pour le meilleur et pour le pire. Donc, nous n'avons pas pris les avions de rapatriement.
Vous parlez du 22. Nous voici maintenant le 23 janvier. Le confinement est décrété à Wuhan. Et voici ce qu'on voit sur France 2.
Wuhan est une ville en quarantaine, une ville sous cloche, une ville interdite, impossible d'y entrer, impossible d'en sortir. Depuis 10h heure locale ce matin, l'aéroport, les gares de chemin de fer et les stations de métro sont fermées. Les autorités locales demandent aux habitants de rester chez eux et s'ils doivent sortir, de porter un masque. Et on ne sait pas combien tout cela va durer. Une décision aussi radicale que tardive. Le premier cas de contamination ici remonte au 8 décembre dernier, pour certains scientifiques, plus d'un millier de Wuhanais seraient contaminés sans même le savoir. En attendant, dans les hôpitaux de Wuhan, 1000 personnes sont en observation et plus de 400 patients sont traités.
On sent votre émotion, Arnaud Miguet. Vous parlez avec un masque. Vous n'imaginiez pas à l'époque que vous alliez rester 4 mois, j'imagine?
Ah non, certainement pas. En même temps, si c'était à refaire, je le referais sûrement, mais ce fut une longue traversée du temps. Ouais. 4 mois, non, c'était inimaginable. C'était absolument inimaginable. Mais en même temps, je pense que c'était important de le faire. Et en effet, à l'époque, nous n'étions pas les seuls, mais nous avons fini par être les seuls journalistes occidentaux. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il était important de rester.
Le dernier des Mohicans, il est avec nous en direct sur Europe 1. Vous restez avec nous, Arnaud Miguet, parce que vous allez nous raconter comment se sont passés ces 133 jours.
Oui, c'est l'Infomédia qui continue. On se retrouve dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Il a passé 133 jours à Wuhan, la ville chinoise où le coronavirus a fait son apparition. Arnaud Miguet, journaliste et correspondant de France Télévisions, revient dans Culture Média sur cette longue période au cœur de la crise, Philippe.
Je l'ai dit, vous étiez non seulement les seuls journalistes français, mais les seuls journalistes non chinois, parce qu'au départ, il y avait des journalistes de l'agence France Presse, des Américains, mais ils ont été renvoyés chez eux par les autorités chinoises. Quelle était l'ambiance à Wuhan à ce moment-là, alors qu'on ne connaissait pas encore bien le virus ?
Oh bah l'ambiance, c'est un climat de peur qui régnait sur la ville. Et on ne savait pas très bien comment appréhender tout ça, comment il fallait se protéger. Tout simplement, le premier jour ou le deuxième jour, on est allé au fameux marché aux animaux sauvages, d'où serait venu le virus. Enfin, la doctrine a changé depuis, la propagande aussi. Mais tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me demande, alors que nous portions nos masques, quelqu'un me demande, mais vous n'avez pas de lunettes de protection ? Et nous n'avions pas pensé à ça. Mmh. Et c'est vrai qu'en Chine, au départ, on part d'une feuille blanche. On ne sait pas ce que c'est que cette maladie. D'ailleurs, quand nous y sommes, elle n'a pas encore de nom, ce fameux nom de Covid-19. Donc on ne savait pas trop quoi faire. On savait qu'il fallait être prudent, on savait qu'il fallait être protégé. Je pense que le masque nous a en effet protégés, même si c'est aussi une mesure d'altruisme. On se lavait les mains régulièrement, on faisait attention et on sortait. Alors on allait se frotter un petit peu aux portes des hôpitaux, mais tout doucement et à pas de chat, parce qu'on ne savait pas très bien, encore une fois, ce qui allait se passer. Et puis interviewer les gens, les gens, a priori, au début, les gens s'écartaient de vous lorsque vous les approchiez. Comme les gens ne vous regardaient pas, comme si le virus se transmettait par le regard.
Et vous aviez peur.
Vous n'avez pas tout ça au départ.
Pardonnez-moi, Arnaud Miguet, vous aviez peur avec eux ou vous étiez, vous manifestiez une certaine distance, voire distanciation?
Comme disait Sartre, qui n'a pas peur n'est pas un homme, on avait quand même un petit peu peur. Moi, j'avais peur. J'avais peur parce qu'il y avait des contrôles de température absolument partout. Votre température était contrôlée 10 fois. Je n'avais plus aucune intimité de ce côté-là. On vous mettait un pistolet sur la tempe pour vous prendre votre température. Au départ, avec des thermomètres qui ne marchaient pas, mais là n'était pas la question. Et lorsque le thermomètre ne marchait pas et que votre température indiquait 32, vous ne posiez pas de questions à la personne qui vous l'avait prise. Il fallait passer son chemin de toute façon. Mais moi, j'étais parti avec de la fièvre en plus, donc j'avais quand même un petit peu peur d'être rattrapé par la patrouille, peur d'attraper le Covid-19, bien sûr, mais peur qu'il nous arrive quelque chose, parce que s'il nous arrivait quelque chose, on aurait été amené dans un hôpital, et tous ces hôpitaux à Wuhan étaient dédiés au Covid-19 déjà, et c'était en quelque sorte des cliniques de la fièvre, c'était le vrai moyen d'attraper la maladie, c'était d'aller dans un hôpital. Donc au départ, on faisait quand même attention et on gardait une certaine distance avec les gens, mais les gens gardaient une distance de même, de toute façon.
Avec Gaël Caron, votre caméraman Arnaud Miguet, vous avez longtemps été les deux seuls clients d'un hôtel jusqu'au 26e jour d'isolement.
Nous-mêmes, confinés dans cet hôtel, nous pouvons mettre les pieds dehors, mais toutes nos allées et venues doivent être signalées aux autorités et inscrites sur les registres. Nous étions les seuls clients de cet endroit, mais l'hôtel a été réquisitionné hier pour accueillir médecins et infirmières, des renforts qui y logent. Combien de temps cette situation pesante peut durer ici à Wuhan ? Nul ne le sait.
Dans quelles conditions ensuite avez-vous travaillé pendant ces 4 mois? Je voyais les sujets aux 20h ou aux 13h de France 2, aussi sur la 3. On vous voyait parfois dans différents points de la ville. Comment avez-vous réussi à circuler, sachant que c'était officiellement interdit?
Alors, on nous laissait faire. Même si en effet on marquait systématiquement nos allées et venues sur un registre qui était transmis aux autorités, au ministère des Affaires étrangères, on mettait les heures, on mettait qui on allait voir, parfois on mentait un peu, mais... et le plus difficile au départ était de trouver un chauffeur, était de trouver un taxi, était de trouver un moyen de locomotion et quelqu'un de suffisamment courageux pour nous amener dans la ville. Et combien de fois les premiers jours, les taxis, les volontaires m'ont dit « Ah non, finalement je reste chez moi parce que ma femme ne veut pas que je sorte ou je pense que c'est trop dangereux, donc je ne sortirai pas. » Donc ça coûtait une fortune d'avoir un taxi pour à peu près 2-3 heures par jour. On sortait à peu près 2-3 heures tous les deux jours. Et les chauffeurs donc étaient des volontaires qui amenaient des patients, des volontaires qui amenaient des vivres, des volontaires qui transportaient les fonctionnaires de la ville qui continuaient de travailler et qui, dans leur temps libre, puisqu'ils avaient quand même un emploi du temps assez bien déterminé, qui dans leur temps libre donc pouvaient nous balader dans la ville. Mais certains nous ont laissés en rase campagne. Après une interview, j'avais dit au chauffeur « on se retrouve dans une heure ». Le chauffeur n'est jamais revenu et j'ai appris par la suite qu'il avait été convoqué par les autorités qui lui avaient dit « ça suffit d'amener ces journalistes ici et là, tu arrêtes de le faire ». Je ne pense pas que les problèmes soient allés beaucoup plus loin, mais c'était quand même une gageure, c'était quand même très difficile de se balader dans la ville. C'était un combat, c'est un combat de travailler toujours. C'est un sport de combat, le journalisme en Chine.
3 ans et demi, vous travailliez en Chine avec Gaël Caron. Jamais vous n'étiez entré dans un hôpital. Cette fois, on l'a vu, vous avez réussi. À quoi ressemble un hôpital chinois en plein Covid-19?
C'était assez terrible ce tournage dans l'hôpital parce qu'on pensait, c'est un hôpital, l'hôpital en question est un hôpital d'ailleurs qui est jumelé avec un hôpital français à Nancy, avec le CHU de Nancy, dont l'aile des urgences avait notamment été ouverte et inaugurée par Jacques Chirac à l'époque où il était venu à Wuhan. Mmh. Donc il y a une espèce de lien avec la France et je pense que c'est comme ça et c'est grâce à ça, après que j'ai eu le numéro du responsable de cet hôpital-là, qui est français d'ailleurs, d'origine chinoise, c'est grâce à ça que nous avons réussi à tourner dans l'hôpital. Mais il n'était pas question au départ d'y tourner.
Mais dans l'hôpital, c'est comment? C'est la panique ou c'est calme? Ou c'est mesuré?
Non, dans l'hôpital, c'était calme parce qu'ils étaient quand même assez rodés à l'exercice. Ils savaient, d'ailleurs, la question que je lui ai posée d'entrée, c'est lorsque nous avons pu y rentrer et ce n'était pas forcément prévu. Ils nous avaient dit, vous allez rester un quart d'heure, pas plus, et on va vous équiper avec des combinaisons, deux combinaisons, deux paires de gants, des lunettes, le masque, les visières, tout ce qu'il faut. Et je savais que le personnel hospitalier en Chine manquait aussi d'équipement au début. Et là, on est à peu près mi-février. Et je lui avais dit, mais bon, finalement, nous donner des combinaisons, peut-être que vous avait plus besoin que nous. Donc il nous avait dit non, aucun problème, les combinaisons sont arrivées de France. Justement, à l'occasion du rapatriement des Français, les combinaisons avaient été données par le gouvernement français. Et nous nous sommes équipés. Et à l'intérieur, c'était absolument bouleversant parce que, évidemment, c'était les services d'urgence. Donc c'était ceux qui étaient le plus atteints et le plus affectés par la maladie, qui étaient intubés. Et le directeur de l'hôpital nous avait dit, vous savez, ici, ils ont à peu près 50% de chances de s'en sortir. Et parce qu'ils sont dans cet hôpital. S'ils étaient dans un autre hôpital, ils seraient déjà partis.
D'un mot, Arnaud Miguet, il nous reste quelques secondes. Vous avez fait quand même deux belles rencontres à Wuhan, jeudi et avril. Qui sont-ils?
Alors, jeudi, c'est la petite chatte qui est arrivée un jeudi, donc à l'époque où nous étions, c'est Robinson Crusoe dans des îlots d'acier et de verre. Ouais. Et elle est venue à moi, venue à moi tout simplement, et j'étais en train de faire un plateau, et elle m'a sauté sur le dos. Et depuis, nous ne sommes pas quittés, nous faisons des tours tous les soirs dans Wuhan, tous les deux. Elle me suivait et je l'ai évidemment nourrie.
J'imagine.
Quant à avril, c'est le petit chien qui est arrivé au mois d'avril, qui était aussi un chien abandonné ou un chien qui a été jeté. Vous savez, il y a des tas d'animaux qui ont été jetés par les fenêtres ou abandonnés au début de cette crise lorsqu'on pensait qu'ils étaient porteurs du Covid-19 et qu'ils pouvaient être dangereux. Donc ce sont deux petites victimes du Covid-19 que j'irai chercher lorsque je pourrai rentrer à Pékin et que je ramènerai avec moi.
Merci beaucoup Arnaud Miguet d'avoir été avec nous en direct de Shanghai. Vous êtes le correspondant de France Télévisions en Chine et on salue évidemment votre binôme, le caméraman Gaël Caron et puis jeudi et avril qui vont pas tarder à avoir la carte de presse. Merci.
À suivre, nos invités médias, nous recevons ce matin Catherine Ringer, le directeur général d'Olympia Productions et de ses stars Christophe Sabot pour parler de la soirée sur C8 ensemble à l'Olympia. C'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Christophe Sabot.
Bonjour Christophe Sabot.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le patron d'Olympia Productions qui dépend de Vivendi. Vous êtes là pour parler d'un événement musical et solidaire. Ça s'appelle Ensemble à l'Olympia. Ce sera ce soir à 21h15 sur C8, ensuite sur C-Star à 22h45. Ensemble à l'Olympia, c'est d'abord un concert qui s'est passé à l'Olympia. Racontez le projet.
Ah, le projet, c'est une histoire qui était au départ un petit peu cocasse. La salle est fermée. Toutes les salles de spectacle sont fermées. Et avec Laurent de Cernerf, qui est le directeur de l'Olympia, on se posait la question, qu'est-ce qu'on peut faire? On voyait beaucoup de choses qui étaient sur le digital. Et en même temps, on avait beaucoup d'artistes qui nous disaient, on a envie de jouer, on a envie de remplir, on a envie de répéter, on a envie de créer, on a envie de faire des trucs. Et on leur a dit, écoutez, on va réouvrir l'Olympia, pour une fois. Et puis on va essayer de concevoir quelque chose que vous n'avez jamais fait. Et que personne ne reverra jamais.
En l'occurrence, alors?
Et alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en appelant un certain nombre d'artistes, la question c'est « Où veux-tu jouer à l'Olympia ?» La réponse est inévitable. « Sur scène. » « Non, tu vas pas jouer sur scène. » Où est-ce que tu as envie de jouer ?» Il y en a un qui nous dit « Moi, je veux jouer dans la loge, la grande loge. » D'autres « Je veux jouer au bar Marilyn. » Bar Marilyn, c'est un petit bar qui est à côté des loges. Et puis « Moi, je voudrais jouer au balcon. » »« Moi, je voudrais jouer à l'entrée. Ouais. »« Moi, je voudrais jouer dans la salle. » Et c'est parti. Après, ça a été une traînée de poutre. Chacun, il a fallu petit à petit leur dire « Ah, peut-être comme ça, peut-être comme ça ». Puis après, c'est très incarné, la production, qui ont mis ça en musique.
Pas la scène, parce que c'était interdit, ou c'est une sorte d'exercice de style à la manière d'Oulipo, où on fait un livre sans mettre aucun « e », par exemple?
On s'est dit au départ, montrons avec les artistes qui adorent l'Olympia, ceux qui ont, parce qu'ils ont quasiment tous fait l'Olympia, une autre facette. Pour une fois, la scène, tout le monde la connaît, mais il y a d'autres lieux à visiter.
Alors justement, tiens, Camélia Jordana, avant que je donne la liste des gens que je vais la donner ici, il y avait Boulevard Désert, Bruel, Claudio Capello, Dadju, Thomas Dutronc, Bilal Hassani, Oshi, Camille Lelouch, Nino, Catherine Ringer qu'on va entendre, Célassou, Trio, Vita et Slimane, j'en oublie. Camélia Jordana, dans une configuration qu'on ne lui connaît pas, si je me souviens bien, elle était dans les gradins, au premier étage, on écoute quelques notes.
Je me laisse, je fais facile. Je chante. C'est que ma vie en péril. Des nuits, ça me hante. Quand de haut en bas, ça tangue. Moi, les yeux fermés, j'avance. Tout en inconscience quand j'y pense. Toi, tu crois que je brille, que je mens. Tes yeux grands, mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu
La chanson s'appelle Facile, mais c'est vraiment pas facile de chanter avec ce talent, Camélia Jordana. C'est au profit d'Emmaüs. De quelle manière, Christophe Sabot?
Ce qu'on souhaitait...
Parce que s'il n'y a pas de public, il n'y a pas d'entrée.
Alors, il y a deux. On a, pour la première fois, quand on a contacté les gens d'Emmaüs, ils nous ont dit on ne fait pas appel en fait, aux dons. C'est une chose que je ne savais pas. Et on leur a dit, mais écoutez, ça sera une première. Comme cette émission sera une première, faisons une première en commun. Et la deuxième chose, c'était donc les recettes, que sont les recettes générées par la publicité pendant cette émission, qui seront donc reversées à Emmaüs.
Thomas Dutronc sera sur scène. Et je lui ai demandé, lui, il est évidemment ravi de venir, quel souvenir il gardait, Thomas Dutronc, de l'Olympia.
Moi, j'y suis allé dès mon plus jeune âge, puisque 5 ans, 6 ans, 7 ans, ma mère m'amenait voir à chaque fois qu'il y avait Alain Souchon ou Eddie Mitchell qui passaient, parce que j'étais très fan d'eux, et je le suis toujours d'ailleurs. J'ai le souvenir d'avoir vu Chuck Berry aussi, c'est peut-être le concert le plus mythique que j'aurais vu là-bas. Et c'était pas aussi bien que je l'aurais rêvé, puisque Chuck Berry a coincé une de ses cordes dans son chevalet, je crois qu'il a joué comme ça pendant 3 morceaux sans s'en rendre compte, ça faisait un bruit épouvantable. Et en plus, Chuck Berry... Peut-être vous ne le savez pas, mais j'ai appris ça là. C'est-à-dire qu'il ne fait pas des tournées avec ses musiciens. Il prend des musiciens au dernier moment, du coin et tout ça, histoire de garder tous les sous pour lui. Et donc, les musiciens qu'il avait avec lui, les pauvres, je ne sais pas, ça devait être des amateurs.
Vous saviez, Christophe Sabot, pardon, que Chuck Berry n'avait pas de groupe ou gardait tout le cachet pour lui?
Absolument pas, c'est une vraie scoop de Thomas, magnifique.
Tous les artistes ont joué bénévolement ou vous avez quand même dû un peu les défrayer?
Non, ça a été un élan. C'est-à-dire que la production était complexe, comme vous pouvez l'imaginer, et tout le monde avait envie.
Ouais, parce que parfois, même dans les Restos du Cœur, par exemple, on ne paye pas les artistes, mais on paye les techniciens qui, eux, n'ont pas du tout les mêmes salaires. L'Olympia fait partie du groupe Vivendi. Une salle, c'est également une histoire. Et Thomas Dutronc avait une prise de position. Il m'a dit, j'ai une prise de position politique à faire passer. On l'écoute.
Je voudrais terminer quand même par quelque chose qui m'a un peu choqué à l'Olympia. Et je voudrais quand même faire parler ici ma conscience politique, hein, parce que je trouve qu'il y a des choses inadmissibles et que c'est un peu aussi le rôle des artistes d'en parler. Eh bien, la dernière fois que j'étais à l'Olympia, figurez-vous que pendant le concert, j'ai voulu aller boire une bière. On m'a dit « Non, monsieur, le bar est désormais fermé pendant le concert. » Alors moi, je dis « Où va-t-on ? Dans quel monde voulons-nous vivre ? » Si on peut même plus boire une bière pendant un concert, je crois qu'il faut carrément faut tout arrêter.
À la tête de Christophe Sabot, le patron de l'Olympia Production, c'est vous qui interdisez les bières pendant le concert? C'est quoi cette histoire?
Vous savez, quand on fait des concerts, qui la plupart du temps sont des concerts en Nancy, si vous êtes au milieu d'une rangée, vous faites lever tout le monde pour aller boire une bière.
Mais non, c'est pas vrai, je suis allé à l'Olympia des centaines de fois. Il y avait toujours Philippe Manœuvre d'ailleurs qui buvait des bières avec les autres critiques, ça m'a toujours frappé.
C'est vrai.
Hein, remettez la bière à l'Olympia, vous restez avec nous, on va vous servir des verres d'eau, Christophe Sabot.
Grand concert ce soir au profit d'Emmaüs, diffusé sur C8, ensemble à l'Olympia, en continuant à parler avec nos invités dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Le monde de la culture a souffert et souffre encore de cette crise sanitaire que nous traversons, mais les artistes sont restés mobilisés et ont enregistré, beaucoup en tout cas, la semaine dernière, un grand concert à l'Olympia au profit d'Emmaüs. Il est diffusé ce soir sur C8 et pour en parler, nous recevons l'une de ses artistes, Catherine Ringer, et le directeur général d'Olympia Productions et de ses stars, Christophe Sabot.
Christophe Sabot, vous me disiez pendant la pause, Catherine Ringer, elle a enregistré dans des conditions que je ne connaissais pas musicalement.
Elle nous a offert un moment qui était absolument magique. Elle nous a dit donc avant l'enregistrement que c'était la seule fois où elle faisait une prestation avec juste une basse et une batterie.
Le chant, la basse, la batterie, pas de guitare, pas de clavier.
Rien.
Bonjour Catherine Ringer.
Rien, j'aime bien.
Vraiment, vous confirmez?
Bonjour.
Hein? Basse, batterie et Catherine Ringer.
Ouais, voilà, c'était marrant d'offrir quelque chose d'un peu différent, mais ouais. Vous savez, c'est un style qui existe, ça s'appelle drum and bass, avec un accent un peu anglais, drum and bass avec un accent américain. Bon, je vais faire tous les accents du monde anglais, mais aussi peut-être avec l'accent de Marseille, drum and bass.
Et de la batterie.
Bon, enfin, voilà, ça sonne bien. C'est la rythmique, disons, avec quand même la basse mélodique et puis la voix. Et c'est agréable, il y a des titres qui s'y prêtent.
Alors, en l'occurrence, quel titre avez-vous joué? C'est Catherine Ringer, joue les Rita Mitsuko, c'était ça. Et quel titre ce fut? Quel titre verra-t-on ce soir, entendra-t-on?
Eh bien, on entendra Les histoires d'A finissent parfois mal. Et puis on entendra « Don't forget the night », « N'oublions pas la nuit quand le jour se lève ».
Vous avez dit oui tout de suite, quand on vous a proposé de participer à cette opération ?
Bah, à peu près tout de suite, oui. Il y a dû avoir une seconde de décalage quand même entre la question et la réponse, mais après, ça a été très rapide. Oui, oui et oui.
Quel souvenir, Catherine Ringer, vous avez de l'Olympia, aussi bien comme spectatrice que comme artiste ?
Bah, j'ai une mémoire un peu floppy, donc je n'ai pas vraiment des souvenirs à vous raconter, à part le fait que quand l'Olympia a été démolie, qu'il a été reconstruit, je crois, 8 mètres plus loin à gauche et beaucoup plus profond, j'ai été vraiment surprise par déjà la longueur du couloir entre le boulevard et l'entrée.
Ouais.
Le fait que c'était... On m'a dit que c'était construit à l'identique avec les qualités et les défauts.
Ben oui.
Et oui, au niveau acoustique, pour refaire exactement la même chose. Et par contre, malheureusement, ça c'est mon côté un peu critique, je n'ai jamais retrouvé l'ambiance derrière ou dans les loges et le bar qui était très chaleureux. Là, c'est un petit peu industriel, disons, voilà. Mais bon, c'est différent.
Vous remettez une pièce dans la machine avec Thomas Dutronc qui voulait des bières. Votre dernier album, Catherine Ringer, remonte à l'automne 2017. C'était Chronique et Fantaisie. Est-ce que vous avez un nouveau projet dans les tuyaux ou est-ce que tout a été stoppé pour cause, évidemment, de Covid-19 ?
Non, rien n'a été stoppé spécialement, question composition, etc. Parce que là, franchement, on n'a pas besoin de sortir de... beaucoup pour faire ça. Ce qui a été stoppé, c'est la tournée Lerita Mitsuko, là, que je chantais ça, et j'ai la chance d'avoir un public qui a envie d'écouter ça, donc ça n'a pas été annulé, mais reporté. Donc il y a, je crois, que beaucoup de choses, dont des festivals, qui seront l'année prochaine, en 21. Et puis sinon, moi, ce que je fais, je ne sais pas exactement, là, je bricole... On verra.
On verra. Je reste sur ce sourire et cette ironie.
On entendra peut-être. Hein ?
Je reste sur ce sourire et cette ironie, Catherine Ringer. C'est un plaisir de vous entendre. Donc, je rappelle, ce soir sur C8, dans l'émission sur l'Olympia, on va entendre du drum and bass avec Catherine Ringer qui chante toute seule avec une basse, une batterie. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, Catherine.
Allez, au revoir.
Allez, au revoir. Christophe Sabot, vous n'êtes pas seulement le patron de l'Olympia, mais également de toute la partie festival du groupe Vivendi. Ce qui était considéré comme un loisir, la musique, c'est devenu une industrie. J'ai trouvé un papier du 7 mai dans le journal économique Les Échos. Aurait-on pu imaginer, écrivent Les Échos, Bourges sans printemps, Belfort sans Eurokéenne, Vienne sans jazz, La Rochelle sans les Franco, Orange sans les Corégies, Avignon sans le théâtre. Les festivals, c'est un énorme business. 2640 festivals musicaux chaque année. Quel est le paysage après le passage du coronavirus ?
Aujourd'hui, c'est un paysage qui clairement veut se reconstruire. C'est un paysage où chacun fait beaucoup d'efforts. On va faire une année blanche et on est en train de travailler sur 2021.
Tout ce que vous aviez prévu en 2020 va être reporté en 2021 ?
Exactement.
Les gens qui avaient acheté des billets pourront les conserver et aller voir les spectacles. Je pense notamment au festival Féline à Lyon.
Sur Félin, ce qu'on va faire, c'est Félin. qu'on va annoncer sur Félin donc la nouvelle programmation d'ici quelques jours. Et on a de très très bonnes nouvelles pour les gens qui ont acheté des billets. Je vous garantis qu'ils vont les conserver. Et en plus, Félin, c'était magnifique parce que c'était une création.
Merci beaucoup Christophe Sabot. Ensemble Merci. À l'Olympia, c'est ce soir à 21h sur C8. À noter que demain, nos invités médias seront Michel Simès et Hélène Gâteau pour parler d'un nouveau magazine autour des vétérinaires. Culture Média continue après le rappel des titres. Place à la culture, nous serons aussi avec le violoncelliste Gauthier Capuçon qui va sillonner la France cet été tout seul avec sa voiture, sa femme et ses deux filles. Et son violoncelle, une tournée d'un genre totalement nouveau. Il y aura son portrait inattendu par Hélène Manerino. On va également parler de documentaires et de pâtisserie. Dans quelques instants, le journal de la culture, juste après ça.